Bonjour Monseigneur Echen.
Bonjour.
Avec vous, pendant ce mois de juin, nous allons prendre le temps de réfléchir et de comprendre ce que peut être une église pauvre. Nous avons tous été marqués par cette phrase du pape François, « Comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres ». Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelle est cette pauvreté? Où est la richesse de l'église? Et quand, comme vous, on est à la tête d'un diocèse qualifié de « pauvre », comment est-ce qu'on fait naître des richesses? Alors aujourd'hui, commençons par entrer par la grande porte de notre sujet, Jésus, le Christ, que nous dit-il de la pauvreté? Qu'est-ce que les évangélistes nous rapportent de sa pensée sur ce sujet? Il me vient quelques épisodes, mais vous pourriez bien entendu, Monseigneur Echen, nous en rappeler d'autres, à commencer par, évidemment, la première des béatitudes dans saint Matthieu, « Heureux les pauvres en esprit ». La pauvreté serait donc une vertu?
Oui, effectivement, la pauvreté est une vertu. Le texte des Béatitudes, évidemment, est pour nous fondamental. Et souvent, quand on le commente, on peut se dire que les Béatitudes, c'est une sorte d'autoportrait que le Christ dessine. Autoportrait dans la mesure où il nous parle de sa pauvreté. C'est lui le pauvre, par excellence. Et si nous nous sommes appelés à vivre de pauvreté, c'est une sorte de configuration progressive, parfois trop lente, à lui-même. Alors, de quelle pauvreté s'agit-il? On pourrait parler de cette pauvreté qui est celle de l'amour, parce que quand on s'abandonne totalement, comme le Christ s'abandonne au Père, et comme nous sommes appelés nous-mêmes à nous abandonner à lui, comme dans cette belle prière de Charles de Foucault, « mon Père, je m'abandonne à toi ». Donc, s'abandonner soi-même, s'appauvrir au point d'être tout entier tourné vers l'autre, vers le Père, dans ce mouvement de l'esprit d'amour. Donc c'est ça vraiment la pauvreté fondamentale qui est celle du Christ. Il est le pauvre et il nous invite à être pauvres avec lui. Si on prend un autre passage du Nouveau Testament très emblématique, je pense à l'hymne aux Philippiens, « Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu ». Il s'est abaissé lui-même, prenant la condition de serviteur. Donc là, c'est le mystère de l'incarnation, du Dieu créateur et tout-puissant qui se fait petite créature au milieu d'un petit peuple, petit enfant. Donc cet abaissement de Dieu qui renonce à ses prérogatives pour se rapprocher par amour de cette humanité qui est la nôtre, dont il est follement amoureux. Donc vraiment, la pauvreté pour nous chrétiens, ça commence par la contemplation du mystère du Christ, du mystère de Dieu qui est le pauvre. La pauvreté de Dieu, on a en tête des phrases tout à fait emblématiques, soit du père Varillon, soit du père Zindel, mais il y a vraiment là un chemin spirituel d'abord, avant que d'être un chemin de réalité concrète dans notre pauvreté ou notre sobriété au quotidien, chemin spirituel de configuration au Seigneur pauvre.
Oui, cette pauvreté, cette incarnation pour vous, et vous le vivez comme une pauvreté du Christ, l'incarnation même.
Oui, la pauvreté de Dieu manifestée en Jésus-Christ, qui se rapproche de notre condition humaine tellement pauvre, tellement fragile. C'est quand même tout à fait étonnant d'imaginer que ce Dieu créateur de l'univers, cet univers qu'on sait aujourd'hui si grand, presque infini, créateur de l'univers qui à un certain moment est capable d'un amour fou pour des créatures à la dimension de l'univers, que ce soit en durée ou en extension. La pauvre petite créature humaine que je suis n'existe quasiment pas. Quasiment pas, c'est comme une sorte de grain de sable sur une plage immense de Vendée ou du Pays Basque. Et pourtant, Dieu aime ce grain de sable que je suis. Donc, comment ce Dieu s'abaisse au point d'aimer cette créature si infime que je suis?
Et effectivement, on voit ailleurs, dans Matthieu, je crois qu'il est dit « la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». Le premier destinataire de la bonne nouvelle, ce sont les pauvres. Alors ces pauvres, est-ce que ce sont encore une fois tous les hommes ou est-ce que c'est un peu plus qualifié que cela?
Alors, sont à la fois tous les hommes et en même temps ces hommes qui, à cause de ce chemin de réalisme sur eux-mêmes, connaissent tellement leur fragilité, leur pauvreté, leurs limites, leurs péchés aussi, qu'ils se tournent vers Dieu en lui demandant d'être comblés de cette richesse qui n'est pas en eux. Quand on pense qu'on a tout, qu'on a la santé, la fortune, un avenir illimité devant nous, On n'est pas pauvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ni des autres, ni de Dieu, ni du tout autre, ni des autres que sont nos frères. Le jour où on se sait vraiment pauvre et petit, où on sait qu'on n'est rien, à ce moment-là, il y a cette sorte d'ouverture du cœur qui me fait dire « j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin des autres. Je ne suis rien sans Dieu et sans les autres. » Et donc, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça veut dire qu'à ceux et celles qui ont ce cœur ouvert par la connaissance assez précise de leur pauvreté, c'est un peu comme dans le sacrement de la réconciliation, pour accueillir ce don extraordinaire de la miséricorde de Dieu, la condition de cet accueil et de cet émerveillement devant l'amour de Dieu, c'est de se rendre compte qu'on a besoin de cette miséricorde, qu'on est tellement petit, tellement pécheur, qu'on a besoin de retrouver cet amour.
Benoît XVI va même un cran plus loin, parce qu'il dit, je crois qu'il est repris en fait par François dans l'Évangile Gaudium, il dit « Les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'Évangile. »
Oui. Oui, effectivement, il y a cette orientation-là. D'autres parleront d'options préférentielles pour les pauvres.
On en parlera
dans
plus
un
tard,
engagement. Ouais. Mais effectivement, ce sont les destinataires privilégiés. Si on lit ce passage d'Évangile que vous venez de citer, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Cela est dit vraiment très explicitement. Alors bien sûr, c'est la pauvreté à tous les sens du terme.
Et justement, dans ce sens du terme, il y a un autre passage, c'est dans Jean cette fois-ci. Jésus à un moment dit, il était un petit peu énervé, mais des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Je trouve cette phrase extraordinaire. Elle est d'une humanité incroyable, en fait.
Oui, c'est cela. À un certain moment, ça intervient au moment où dans l'Évangile, on fait le reproche à certains, je pense à Marie en particulier, Marie de Magdala, de dépenser finalement un parfum de grande valeur dans cette démarche d'adoration du Christ, qui est le pauvre par excellence. Et donc il y a cette formulation, cette explicitation, des pauvres vous en aurez toujours avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. C'est-à-dire qu'à un certain moment, cette pauvreté de nos frères et sœurs en humanité, la nôtre elle-même, elle sera toujours devant nous, c'est en tout cas comme ça moi que j'interprète ce passage d'Évangile. Par contre, si je veux être attentif de manière continue et de manière forte à cette pauvreté de mes frères et sœurs en humanité et à ma pauvreté elle-même, il faut que je reste ancré dans le Christ qui, lui, est la source en moi de cette attention aux pauvres. Parce que sinon, j'aurai toujours ces pauvres avec moi, mais je resterai indifférent à eux, un peu comme le pape François le dit à propos de cette indifférence de notre humanité ou de notre Europe. Cette mondialisation de l'indifférence par rapport à ces gens qui se noient, ces hommes, ces femmes, ces enfants au large de Lampedusa, mondialisation de l'indifférence. Si nous ne nous ancrons pas dans la contemplation du pauvre qu'est le Christ, bientôt nous ne pourrons plus aimer nos frères et sœurs pauvres en humanité. Donc c'est aussi comme ça que je lis ce passage d'Évangile.
Il nous invite en fait à le regarder pour mieux regarder les pauvres.
Voilà.
D'accord. Il y a aussi un autre passage auquel on pense, bien sûr, qui est très connu, il est en plus rapporté par les trois évangélistes synoptiques, c'est la parabole du jeune homme riche.
Oui.
Donc là, c'est un regard inversé, ce n'est pas sur la pauvreté, mais c'est sur la richesse.
Oui, cette parabole-là aussi est tout à fait étonnante. C'est toujours intéressant de voir les interprétations multiples et variées qu'on peut donner à la parole de Dieu, là, mais ce jeune homme riche, en quelque sorte, il a tout. Et une seule chose lui manque, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Donc il a tout en quelque sorte, mais il est peut-être trop attaché à ses richesses. Alors ses richesses, ça peut être des richesses relationnelles, finalement être dans une qualité relationnelle, familiale, amicale, et qui nous comble. Et à un certain moment, les témoins de l'Évangile sont invités à quitter l'homme, quittera son père et sa mère, sont invités à quitter des frères et des sœurs pour en retrouver d'autres auprès desquels ils seront témoins de l'Évangile. Donc, vendre tout ce que tu possèdes, c'est renoncer aussi. Il n'y a pas très longtemps, je célébrais dans un monastère de bénédictine, dans mon diocèse, au monastère du Pesquet, une profession solennelle. Finalement, renoncer à ses attaches familiales, on voit bien que ça coûte aux parents, que c'est un vrai renoncement. de la part de celle qui devient religieuse, mais aussi de leur part. Il y a une vraie rupture, en quelque sorte, de relation, même si ce n'est pas vrai au plan spirituel. Renoncer pour le royaume. Donc, accepter de se détacher de tout cela, donc des richesses relationnelles, des richesses matérielles. Accepter de se détacher de ses biens, de son confort, de sa tranquillité économique, matérielle, pour partir sur les chemins, un peu comme ces témoins de l'Évangile, ces disciples que le Christ envoie deux par deux en leur disant ne prenez pas pour la route autre chose qu'un bâton, ne prenez pas de tenue de rechange, donc renoncer à ses biens matériels et peut-être renoncer, ce qui est plus difficile encore, et là on touche au vœu d'obéissance, à sa volonté propre, renoncer à choisir par soi-même ce que l'on va vivre, faire au quotidien, se remettre à la volonté d'autres, d'un autre. Finalement, derrière la volonté des autres, c'est la volonté de Dieu. Un peu comme on demande aux prêtres, au jour de leur ordination, s'ils acceptent d'entrer dans ce chemin d'obéissance, de renoncement à leur volonté. On ne choisit pas sa vocation, dit le père de Foucault. Mais on la reçoit, il faut chercher à la connaître, prêter l'oreille à la voix de Dieu, on ne choisit pas sa mission, on la reçoit de son évêque, donc abandon de sa volonté propre. Donc ce chemin de pauvreté-là, c'est vraiment le chemin des disciples de Jésus.
Merci beaucoup, Monseigneur Echen, de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci à vous.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine, nous aborderons ensemble le sujet des richesses de l'Église.